Attends, comme les choses sérieuses. Ouais, je vais te demander tout simplement de te présenter, déjà. Mmh. Et bon, après, je rajusterai.
Non, alors, je m'appelle... Je suis né le 18 novembre 1958 à Marseille. Je suis fils de... et de... j'ai 45 ans, donc, comme vous pouvez vous en apercevoir, je fais le métier de marraine de commerce. Je suis marié à Françoise...
Tu as toujours fait ce métier ?
Pratiquement, je fais ce métier depuis 1981, sans discontinuer, sinon je l'ai fait un petit peu avant 79. J'ai arrêté au bout de 3-4 mois de navigation.
C'est une moto, ça me fait bizarre.
Et j'ai travaillé à terre, donc dans la restauration, puisque je suis cuisinier.
D'accord. Et t'as quoi comme formation ?
Comme formation, mais j'ai fait l'école hôtelière de Nice, je suis de la promo 76. J'ai un BEP, un CAP de cuisine. J'ai également fait donc, un concours cuisine niçoise quand j'étais élève à Nice. J'ai terminé 3e du concours.
Félicitations.
Sinon, après, j'ai fait l'armée dans la marine nationale. Donc je suis sorti avec le grade de... C'était le grade de... Attends, je ne dis pas de bêtises. Quartier maître chef, je crois, enfin, tout dans ce style-là.
Ne parle pas trop, mais bravo. Et c'est... ça n'a plus rien à voir avec l'armée, là, où tu travailles.
Non, ben, à part l'uniforme, bon, les officiers qui pourraient nous rappeler l'armée, sinon, bon, c'est quand même pas l'armée, non. C'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus classe. Enfin, ça... On est sur un bateau à passagers, donc ça n'a rien à voir avec un bateau de guerre, voilà, c'est ce que je veux dire.
Et là, au niveau du boulot, ça a une bonne ambiance.
Très très bonne ambiance.
Beaucoup, apparemment.
Ah oui, oui, c'est un métier que j'adore. Et si c'est à refaire, je recommencerai, je ferai la même chose. Parce que j'adore la mer qui est ma passion. Mmh. Cuisiner également, donc c'est un métier qui me plaît. Et arriver à concilier de faire la cuisine sur un bateau, mmh, c'est quelque chose qui me paraissait, disons, un aboutissement.
Et avec les collègues de travail, donc
tout se passe très très bien. Je suis un joyeux luron. Bon, je dynamise les groupes quand on est dans les brigades, tout ça. Je pense être un bon chef de cuisine parce que j'ai toujours su faire la part des choses. Je quand quelqu'un fait mal, je suis là pour lui expliquer comment se rattraper. Et puis bon, mais j'évite les conflits. Je pense être quelqu'un d'assez sociable et j'assiste pas mal les gens dans leur vie de tous les jours. Voilà, donc, dans le boulot, c'est pas évident parce que comme nous sommes une petite famille, nous sommes quand même 180 membres d'équipage sur un bateau, on vit en autarcie, donc on est tous les uns sur les autres, pendant des semaines, des fois, il faut se supporter, et c'est vrai que bon, c'est pas évident d'arriver à... Alors je suis un peu le lien entre toutes les personnes, j'essaie de calmer les esprits quand ça s'échauffe, et puis bon, de par ma position à bord, puisque la cuisine, c'est le baromètre d'un bateau, le baromètre de l'équipage. Si la cuisine est bonne, l'ambiance est bonne. Alors ça fait que quand les gens viennent me trouver, me demander de leur faire des petits plats, des trucs comme ça, bon, mais j'essaie avec la brigade de cuisine de satisfaire tout le monde. Et apparemment, ça se passe pas mal, puisque bon, sans dire que je suis le meilleur, mais bon, les gens sont satisfaits des prestations qu'on leur donne et ils sont satisfaits de travailler avec moi.
Ok, et avant d'habiter à Marseille, tu habitais où ?
Avant d'habiter Marseille, donc j'habitais dans un petit village dans la banlieue nord de Marseille qui s'appelle Septem-les-Vallons. Mon père y habite toujours d'ailleurs. Et puis donc, dès que j'ai la possibilité, je vais le voir. C'est un petit village qui est sympathique, qui a beaucoup pris d'ampleur ces derniers temps. Et quelquefois, c'est vrai que je ne le reconnais pas parce qu'il y a eu des constructions nouvelles qui l'ont un peu défiguré. C'est fort dommage.
Un peu comme partout.
Mais enfin, mon père, il habite dans un tout petit quartier qui ne sera, je pense, jamais touché parce que c'est vraiment les vieilles maisons comme on trouvait à l'époque, les maisons imbriquées les unes dans les autres. Il n'y a pas de possibilité de faire de constructions nouvelles, donc... ça reste quand même quelque chose de sympathique. Il y a encore une âme dans ce petit quartier.
Et ici, dans ce quartier, c'est pas trop pareil?
Dans ce quartier, ben, depuis que j'habite là, maintenant ça doit faire 7 ans, j'ai sympathisé avec tous les gens des environs. Je m'entends très bien donc avec tous les commerçants. On se tutoie, enfin là en plus j'ai un copain de travail qui habite juste en face chez moi. Ça a été le hasard qui a fait que je suis venu donc faire construire la maison à cet endroit. Et puis bon, moi j'entretiens de très très bonnes relations, les jeunes, les vieux, donc je connais tout le monde. Contrairement à mon épouse qui elle est un peu plus, pas sociale, mais elle est un peu sauvage, donc elle est assez réservée. Alors que moi je suis plutôt extraverti, je vais devant les gens et je trouve que c'est bien.
Toi qui fais le lien
Voilà, moi je dis bonjour à tout le monde, même les gens que je connais pas. Dans la rue, je croise quelqu'un, bonjour. Ou une grand-mère, bonjour madame. Enfin, donc ça a l'air de plaire aux gens, puisque bon, ils me répondent. Ils ont peut-être pas l'habitude que les gens leur disent bonjour spontanément. Et moi, c'est la ma nature, j'ai été éduqué comme ça, à dire bonjour en entendant les commerces. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait la connaissance des commerçants. C'est bien, je trouve, de connaître les gens à proximité. Puis, bien souvent, quand on a un problème, bon, on se retourne surtout vers le voisinage, vers les gens qui sont proches, plutôt que la famille proprement dit, parce que malheureusement, ils n'habitent pas forcément dans un périmètre suffisamment proche pour qu'on puisse les appeler au secours si on a besoin d'eux.
Ah, c'est sûr, c'est toujours plus sympa de se sentir
Ah oui,
bien
ben,
entouré et puis
moi les voisins, je sais
tout
que bon, on
simplement.
entretient des bonnes relations. Quand on s'en va en vacances, bon, on leur laisse les clés de la maison pour qu'ils s'occupent d'arroser les plantes, pour faire voir qu'il y a du monde qui. C'est important, je trouve. On le fait par les voisins, non pas par la famille, parce que ça, y a trop de contraintes pour ça. Voilà.
Et avant d'habiter cette maison, tu habitais où?
Alors, avant d'habiter cette maison, donc, quand j'ai rencontré donc mon épouse, nous avions pris un petit studio du côté des Catalans. Donc, c'est dans le 7e arrondissement de Marseille. On était bien. Après, bon, mais j'ai voulu quelque chose de plus grand parce que vraiment c'était un petit studio. On a loué donc un appartement beaucoup plus grand. C'était du côté de la Poste Colbert, dans le 2e. On y habitait presque une année, puis on a déménagé quand on a été cambriolé. Moi, j'étais en voyage donc professionnel. J'étais en Tunisie et on a été cambriolé. Et ça fait que la peur de se retrouver toute seule, ma femme n'a pas voulu rester et on a déménagé. On a pris, disons, pension chez les beaux-parents qui habitaient à l'époque du côté de Sainte-Marguerite, juste le temps de trouver un autre appartement. Et ensuite, on a trouvé un autre appartement, toujours pareil, on est revenu aux Catalans. Mais là, cette fois, on était rue des Catalans, front de mer, ben, on était vraiment très bien. Et si on a déménagé de cet appartement, c'est parce que c'est pareil, c'était un peu petit. Et on a eu l'opportunité de trouver donc cette maison, on l'a achetée, enfin, on l'a fait construire. Et pour nous, c'était un aboutissement, je pense. C'était pas un rêve, mais bon, tout le monde a envie de se mettre un toit sur la tête. C'était là une chose qui nous paraissait importante. Maintenant, bon, mais c'est notre petit nid, c'est toujours pareil. Après, on veut toujours plus, plus, plus. On est parti du studio, maintenant, donc on a une maison individuelle, c'est encore pas suffisant. On veut toujours plus grand, plus grand, alors qu'on sait pertinemment que quand notre fille partira, bon, on va se retrouver comme deux couillons tout seul dans cette grande maison. Mais bon, c'est peut-être on a besoin d'espace, de se sentir.
Mais toi, a priori, t'as pas envie de partir de Marseille de toute façon.
Ah non, moi je ne pourrais pas quitter Marseille, parce que pour moi, Marseille, c'est la ville de mes racines, c'est là que je suis né, ma mère est née à Marseille. Et puis bon, mais je ne pourrais pas m'éloigner de la mer. Même si mon travail me permet d'être en permanence sur la mer, mais je ne pourrais pas ne pas. Un jour sans voir la mer, ça serait quelque chose qui serait difficile.
Je comprends.
Ça me manquerait.
Moi, ça me manque à
Même si je me baigne pas, ça fait rien. Mais bon, le fait de voir la mer, c'est quelque chose qui est apaisant, c'est quelque chose qui me plaît. Des fois, je peux rester des heures là, en promenant le chien en bas à la plage. Je me mets, je regarde la mer, je regarde les bateaux, trucs, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Je regarde le Friou, le Château d'If, c'est super. Je me régale.
C'est chouette de bien apprécier, de savoir
Ah,
apprécier ce qu'on a.
ah oui.
Et t'as jamais habité donc à l'étranger?
Ah non, ah non. Septembre à Marseille, voilà, ça s'arrête là. J'ai jamais essayé, d'ailleurs j'ai jamais même voulu aller habiter ailleurs. On a bien envie et on a bien l'espoir peut-être d'un jour d'acheter une maison de campagne pour dire soit
Catalan.
partir le week-end, tout ça, enfin on aimerait bien. Mais bon, ça c'est des projets. On a tellement de projets, on voudrait ci, on voudrait là, on voudrait un bateau, enfin donc c'est pour ça. Alors on ne sait pas quelle est la priorité là. Après cette maison, on ne sait pas. Mais c'est vrai que si j'avais la possibilité de m'acheter un bateau, je crois que ça serait encore mieux que d'avoir une maison de campagne. Alors donc là, je suis en train d'essayer de convaincre mon épouse que ça serait peut-être une solution à moindre frais que d'avoir une maison. Bien qu'on ne pourrait peut-être pas recevoir toute la famille, parce que bon, un bateau, c'est pas suffisamment grand, mais pour nous, ça serait évasion, ça serait idéal. Se retrouver.
Ah, mais vous voyez, si proche, famille.
Oui,
Je
bien sûr. Mais fait, moi, c'est vraiment quelque
t'en
chose.
trouve plein d'arguments
Ouais.
si tu
Non, mais
veux.
c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ça. Acheter un bateau, c'est pour moi, c'est presque de pas vital, parce que mais j'en rêve le jour et la nuit, on va dire. Là, je m'occupe je fais partie donc d'un club de comment dire, pêche promenade dans mon entreprise, et je suis le responsable, donc je m'occupe de l'entretien d'une vedette que nous avons. Et dès que j'ai la possibilité pendant mes congés ou quand je suis à Marseille en escale, que je passe à récupérer les clés, je vais faire un tour sur le bateau, voir si tout va bien, donc s'il n'y a pas besoin de reprendre l'amarrage, s'il n'y a pas de problème technique, je vais le faire retourner parce que bon, bien souvent, il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'en occupent. Et bon, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je le fais vraiment bénévolement, mais en plus, je le fais vraiment de gaieté de cœur.
Et ouais, c'est sûr que c'est chouette aussi.
On m'a bombardé,
Et c'est quel genre
président.
de bateau que tu pêches? Un
C'est.
voilier plutôt
Non, 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 non,
ou...
c'est une vedette donc
Ah ouais, d'accord.
motorisée.
Ouais, un motorisé.
C'est une vedette qui doit faire presque 8 mètres de long, donc avec cabine, couchette,
Non, mais que tu
WC.
voudrais t'acheter?
Ah oui, moi c'est un bateau comme
Ouais,
ça, un
ouais.
bateau qui fasse minimum 8 mètres. J'ai déjà le bateau, j'ai le nom, j'ai les références, j'ai tout. Mais après, c'est au niveau du prix que ça coince un peu. Mais bon. Sait-on jamais, peut-être que j'aurai la chance, en cherchant bien, de trouver une bonne occasion. En sachant que ça me coûtera très cher, ça c'est sûr. Après, donc, ça deviendra une passion très coûteuse, mais quand on aime, on compte pas.
Oui, enfin, c'est vrai que par rapport à une autre petite maison, finalement, ça va être tellement cher les maisons, même pas
Je sais,
même loin de la
voilà, je
mer,
sais pas si ça revenait plus cher que d'avoir une maison.
je crois pas.
Et puis l'avantage, c'est qu'un bateau, donc on peut partir et on peut se déplacer, faire toute la côte, tout ça, on peut aller louer même éventuellement aller en Corse, pourquoi pas. J'aimerais bien faire dans quelques années le tour de Corse en bateau avec mon épouse, lui faire
Ah, c'est
découvrir tous les
chouette.
magnifiques endroits qu'il y a, ça me plairait beaucoup.
Elle aime le bateau aussi, la mer.
Et ben, surtout, elle, ce qui lui plaît, c'est la liberté. La liberté de se retrouver donc en mer, pouvoir se baigner sans contrainte, sans avoir les gens d'à côté à la plage qui te crient dessus, ou être là à
Ah
surveiller sa serviette ou ses affaires de peur de se faire voler, parce que sur Marseille, malheureusement, il y a des pickpockets, il y a des rats de plage là qui attendent que ça. Alors bon, mais si c'est pour aller à la plage et ne pas apprécier, je préfère encore rester chez moi. C'est pour ça que quand je peux prendre le bateau, au moins, je suis tranquille parce que je suis tout seul, il n'y a personne autour. On se baigne, on fait ce qu'on veut, on plonge, c'est l'évasion, voilà. Et puis en même temps, bon, c'est le plaisir ludique. On promène, on fait un tour, on regarde le Frioul, on regarde le Château d'If, on fait un tour, on longe la Corniche, tout ça. C'est puis voir Marseille de loin comme ça, c'est beau. Surtout le soir, là, quand on rentre, qu'il y a toutes ces lumières, Notre-Dame-de-la-Garde, c'est une vue qui est féerique pour moi. C'est quelque chose de vraiment qui est. Il n'y a que les gens qui l'ont pas connu, ça, qui peuvent pas.
Comprendre.
Bon, ouais.
Très bien, bon, on va parler un peu de la famille.
Oui.
Bon, donc tu es mariée, tu as un enfant.
Oui.
Alors, qui a
J'ai une
quel
fille
âge?
qui va avoir 18 ans le 26 décembre de cette année. Ah oui.
Et elle fait quoi dans la
Ben
vie?
là, elle est donc. Elle passe son bac normalement en fin d'année. Alors, elle ne sait pas trop la voie qu'elle va prendre. Là, peut-être. Maintenant, elle se serait décidée peut-être pour aller en pharmacie. Alors, ma foi, pourquoi pas? On espère que de toute manière, elle fera quelque chose qui lui plaira. Alors, on essaie de lui expliquer que le travail pour elle n'est pas pour nous. Mais pour l'instant, je ne sais pas si elle a vraiment compris l'importance des études dans la vie. Pour elle, donc, c'est quelque chose d'assez rébarbatif. On a voulu expliquer, lui dire que nous on est passé par là aussi, on sait ce que c'est, et que bon, si nos parents nous avaient peut-être davantage boosté, enfin, peut-être qu'on aurait fait des choses mieux, mais peut-être que, comment dire, moi j'ai fait un métier, disons que j'ai fait une formation professionnelle parce que c'était pour moi la cuisine, c'était important. Les études, maintenant je regrette un peu de peut-être pas avoir suffisamment poussé mes études, Mais bon, j'ai réussi à obtenir donc mes diplômes de cuisine. Je pense avoir un niveau d'instruction à la moyenne. Mon épouse aussi donc a fait des études, elle a eu son bac, tout ça. Donc, on pense être des gens instruits, intelligents. Pareil, donc dans la moyenne nationale, on va dire. Et on aimerait que notre fille fasse comme nous, qu'elle puisse plus tard donc avoir un métier suffisamment bien pour elle, pour qu'elle puisse donc avoir une vie plus agréable que la nôtre, on va dire. C'est le souhait. C'est le souhait de tous les parents, ça.
Pourquoi t'as trouvé ta voie, toi?
Oui, bien sûr. Non, je me plains pas de ce que je fais. Mais bon, j'aimerais que ma fille fasse un métier où elle puisse gagner sa vie assez bien pour profiter, pour sortir, pour aller au restaurant, enfin, pour faire ce qu'elle a envie de faire et non pas se retrouver à faire un métier merdique où elle regretterait à la fin du mois, elle pourrait rien faire parce qu'elle aurait pas suffisamment... Bon, on essaierait de l'aider, mais... On ne peut pas non plus subvenir à ses besoins tout le temps. Nous, on sera là pour l'aider, à la pousser dans ses études pour qu'elle puisse faire le maximum pour y arriver. Et puis bon, mais s'il faut faire des sacrifices avec sa mère, on en fera. Si après elle a clé, bon, mais c'est bénéfique pour elle. Et bon, on espère qu'elle va finir par comprendre que c'est hyper important de travailler. Parce que là, pour l'instant, elle pense qu'elle a une chose, c'est ricaner avec ses copines. Enfin, voilà, c'est ça, le téléphone portable, la musique, le truc, le ciel là. Enfin, et puis les études, bon, à la limite, c'est accessoire. Et ça, bon, mais c'est vrai que ça tendance à mettre sa mère dans une colère noire. Moi, je le vis pas quotidien, puisque donc je suis la plupart du temps parti. En moyenne, je pars entre 6-7 mois par an. Mais les 5 mois où je suis à la maison, bon, j'aimerais la tranquillité, le calme, mais malheureusement, c'est pas le cas. Quand je rentre, donc il faut que je fasse le gendarme, et ça, je sais pas le faire. Et vis-à-vis de ma fille, c'est vrai que je manque beaucoup d'autorité. J'ai tendance à être un peu le papa gâteau. C'est pas du laxisme. J'essaie de faire avec ma fille ce que mon père a fait avec moi. Je vois que bon, finalement, le résultat n'est pas trop mauvais. J'ai une bonne éducation, tout ça, donc j'ai pas mal tourné, je suis pas un voyou, enfin, et j'aimerais que ma fille, donc elle comprenne que il peut y avoir le respect père-fille, tout en ayant un certain copinage. J'aimerais, moi, bon. Mais c'est vrai que bon, de temps en temps, elle a tendance à confondre papa et les copains. Et ça, bon, mais sa mère, elle l'apprécie pas. Moi, ça me gêne pas, parce que, je me dis, bon, mais si c'est comme ça, si le courant passe bien et qu'à l'arrivée, on arrive à faire quelque chose de bien ensemble, pourquoi pas? Mais bon, elle a tendance des fois quand même à un peu oublier quelle place elle occupe dans la maison.
L'éducation, c'est difficile.
Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc être sévère, est-ce que c'est la solution? Laxiste, donc bon, il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants et quand même ils ont des résultats, puis il y en a d'autres qui sont tout le temps derrière eux, et puis bon, mais les enfants, ils ne sont pas pour autant mieux. Hein. Alors bon, je pense qu'il y a une question de confiance, une question, puis après il y a aussi la maturité. Alors donc, on a toujours espoir qu'elle va franchir encore un palier. Bon, elle est presque à l'âge adulte. Oui, bien sûr.
Et Françoise, tu disais donc ta femme, elle a son bac et après elle a repris d'autres études ou...
Non, elle a eu son bac, elle a continué je crois 2 ans après le bac, puis bon, mais elle a arrêté, elle voulait faire du droit, après elle voulait faire, je crois que c'était, elle s'était tournée vers les trucs d'infirmière. Mais comme elle a un problème de santé assez récurrent, elle ne pouvait pas être en contact avec des personnes malades parce que elle est trop fragile, elle a un problème d'immunité, alors ça fait que ça y a été barré. Donc en quelque sorte, ça, tous ses espoirs, tout ce qu'elle espérait faire, en rien de temps, donc ça s'est écroulé. Et ça fait qu'elle fait un métier qui ne lui plaît pas du tout. Elle est secrétaire pour le ministère de la Défense, elle travaille avec des personnes, des médecins qui travaillent à l'Institut de médecine tropicale. Et bon, ça... Pour elle, c'est pas quelque chose qui est bien en soi. Elle aimerait changer, faire autre chose, elle voudrait se lancer dans la restauration, elle voudrait se faire plein de trucs, ou en fait, elle aurait l'impression de gagner de l'argent, parce que là, bon, mais elle a l'impression de se gâcher, de végéter, et ça la met de mauvaise humeur, et ça se ressent après, donc, dans notre vie de couple, ça se ressent même au niveau de la famille, quand une femme est pas épanouie, bon, il y a plein de choses qui font que ben, c'est pas ça. Alors comme moi, en plus j'ai ça le caractère, ben, quelquefois ça fait des étincelles.
Pas mal. Vous avez à peu près le même âge?
Oui, on doit avoir, moi je suis de novembre 58, elle est donc de juillet 59, donc on doit avoir 9 mois d'écart.
Et elle est de, enfin, elle est née à Marseille, elle aussi?
Non,
ou...
elle est originaire, donc, enfin, elle est née à Toul, du coup, en Meurthe-et-Moselle, puisque son père est un ancien militaire, son père est breton, et sa mère est lorraine. Donc, ça fait qu'elle a vécu sa prime jeunesse, on va dire, dans l'est de la France, et je crois qu'elle est venue habiter à Marseille, elle doit avoir une dizaine d'années. Donc, ça fait maintenant, bon, 30, plus de 30 ans qu'elle habite Marseille. Elle se considère comme une Marseillaise, mais elle n'a jamais pris l'accent. Elle a toujours gardé son accent pointu de l'est.
C'est bizarre. Avec un mari
comme... Ben oui, mais bon, mais ça. Elle trouve que l'accent du sud, ça fait vulgaire. Et quelquefois, elle me reprend, elle me dit ah, tu parles trop avec l'accent. Mais bon, la chasse naturelle revient au galop.
Et toi, tu trouves qu'elle a l'accent trop pointu? Ben, c'est pas
la façon que tu disais. Oui, parce que je trouve pas que. Bon, depuis le temps qu'elle habite ici, j'aurais espéré que, enfin, qu'elle prenne l'accent. Disons que je comprends pas que par rapport à sa sœur qui est venue en même temps qu'elle, donc qui est peut-être un peu plus âgée, elle doit avoir 2 ans de plus que sa sœur. Sa sœur a vraiment pris l'accent marseillais, donc on a l'impression vraiment qu'elle est native de Marseille, alors que c'est pas du tout le cas. Et Françoise, elle, bon, mais elle ne fait pas d'efforts, hein. Bon, elle ne se force pas à parler pointu, mais bon, c'est comme ça, elle a cet accent de naissance, et elle n'a jamais perdu son accent. Comme ma sœur qui est partie donc à épouser un Vosgien, c'est pareil, donc là-haut dans le village, il appelle la Marseillaise, mais elle a encore des intonations marseillaises, mais bon, depuis le temps qu'elle habitait là-haut, elle a pris l'accent de là-haut des Vosges. Moi, je trouve qu'elle parle maintenant pointu, alors que là-haut, ben, les gens pensent qu'elle a toujours son accent. C'est vrai que quelquefois, dans les intonations, elle a un petit peu, il y a un fond de Marseillais, mais à force de parler tout le temps avec des gens qui ont pas ton accent, ben, tu finis par parler. Ça serait quand même une hérésie que ce soit elle qui t'en a l'accent marseillais là-haut dans son village.
C'est clair. Tes parents sont nés où, quelle année à peu près?
Mon père est né en 1921. Il est né dans le Var, dans un petit village qui s'appelle Vinon-sur-Verdon. Et il est venu habiter donc à Septembre-les-Vallons. Il avait, je crois, 2 ou 3 jours. Donc on peut le considérer comme... ça fait maintenant, donc il a bientôt 82 ans. Donc il n'a jamais quitté son village de Septembre-les-Vallons. Il a toujours habité là. Et bon, en quelque sorte, c'est un peu la mémoire vivante du village. Quand les gens dans le village ont besoin de savoir quelque chose, ils vont voir René Payan, qui pour nous est le papé. Dans la famille, tout le monde appelle le papé. Depuis le film de avec comment il s'appelait, Yves Montand, qui jouait la Manon des Sources, le papé, bon, mais on l'appelait comme ça à l'époque, mais bon, maintenant c'est resté, j'appelle même plus papa, j'appelle papé.
C'est... ah, ça vient de ça.
Non. Et ma mère est née à Marseille en 1925, mais elle était donc fille d'émigrés italiens. Elle était donc née française par le sol, mais elle est devenue française qu'à sa majorité à 18 ans. Parce que pendant toute sa prime jeunesse, donc, malgré le fait qu'elle ne soit jamais habitée en Italie ou quoi que ce soit, elle avait cette double nationalité. Et elle a opté pour la française donc à sa majorité. Qu'à majorité. À l'époque, c'est à 18 ans qu'elle est devenue française. Je ne sais pas si c'était 18 ans à l'époque, en 1926. Donc je ne sais pas si c'était 18 ans. Donc je ne pense pas que c'était à 18 ans la majorité à l'année où... Mais bon... Elle est française.
Et elle parle italien, quand même?
Non, je pense pas, non. Je n'ai jamais entendu ma mère parler italien. Je m'en souviens pas.
Avec ses parents, avec sa mère?
Sa mère, je ne l'ai pas connue, puisque bon, elle était décédée avant que je naisse. Son père, donc Pietro, j'ai des souvenirs lointains, donc je me rappelle de lui vaguement comment il était. Il avait les cheveux blancs. Mais sinon, le son de sa voix, tout ça, non, c'est, pour moi, c'est trop loin. Je me souviens plus en quelle année il est décédé, mais je pense que j'étais vraiment petit, et ça, c'est pas... non.
Et elle parlait provençal?
Non, elle ne parlait pas provençal. Elle le comprenait, bon, elle employait des termes, un peu comme moi je fais avec mon père, quand on se retrouve ensemble, on parle, on essaie de parler provençal. Enfin, mon père parle très très bien le provençal. Moi, donc, je n'ai pas suffisamment parlé provençal avec lui. J'ai un peu pris des cours de provençal quand j'étais à l'école, au lycée. Mais sinon, bon, je comprends tout ce qu'il me dit. J'essaie de parler, de tenir une conversation avec lui, mais c'est pas évident parce qu'il y a, il y a pas mal de mots que je ne connais pas. Mais bon, je me débrouille pas mal.
Et quand vous étiez petit, vous parliez jamais provençal ?
Non, jamais. Non, on parlait pas. C'est dommage d'ailleurs. J'aurais bien aimé parler provençal. J'aurais bien aimé faire comme les Corses font chez eux, où bon, de tout petit, on parle corse et c'est la langue corse qui prime sur la langue française. Et ça aurait été bien si on avait pu faire comme ça, parce que bon, ça nous aurait permis un peu de nous échapper quand on avait quelque chose à se dire. Bon, on aurait pu se le dire, et bon, les étrangers, ils n'auraient pas compris. Ça aurait été bien. Ah oui.
C'est chouette aussi de parler
d'autres. Oui, mais quelquefois, c'est vrai que bon, quand je le mène à faire des courses ou quoi, bon, on se parle en provençal, et bon, les gens nous prennent pour des fadas. Parce qu'ils parlent en quoi, ces gens-là? Parce que parler le provençal, il y en a beaucoup qui ne savent même pas le son du provençal. À part pêcheur, des trucs comme ça, mais bon, c'est même pas du provençal, ça c'est du marseillais. Mais sinon, ouais, le pitchoun, des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir, des quelques bribes de phrases comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'avec mon père, de temps en temps, quand je vais le voir, la journée entière, on parle en provençal. Et bon, ça me fait plaisir. Et puis lui, en même temps, ça lui fait plaisir. C'est ses racines, parce qu'il me disait que quand il était petit, c'était interdit de parler en provençal, il fallait que parler en français, mais alors qu'il parlait que provençal, même quand ils avaient mon âge, avec ses frères, donc avec les collègues du village, tout ça. Et là, il y a quelques vieux, les irréductibles, là, un peu comme dans le mot pecho, là, ils sont trois ou quatre, là, sur le banc, là, et ils parlent, donc, et ça fait qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'ils se disent.
Ouais.
Oui, surtout quand il passe les jolies filles, alors il disait des conneries.
Ok, ben merci. On va peut-être les rejoindre un peu.
Il n'y a pas de problème.
La famille.